cul de l'église.
On va pas y passer la nuit.
Ah, mollo sur le destroy.
Juste à gauche de Saint-Daf, au cul de l'église.
Et les gars, et mollo sur le destroy là.
On va pas y passer la nuit.
Ah bah non, on va quand même pas y passer la nuit.
Ah bah non, on va pas quand même y passer la nuit.
Et ben où?
Au cul de l'église.
On va pas y passer la nuit.
À la bonne heure.
Au cul de l'église.
Et moi, sur le destroy.
Mollo sur le destroy.
Bon, on va pas y passer la nuit.
Ensemble, unis, on pourrait faire de grandes choses. Si Dieu veut, un jour vaincra la rabia del pueblo.
On est les seuls à pouvoir bousculer les choses.
On va pas y passer la nuit.
Cul de l'église, mon gars.
Salut les Zoulous, très chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans la 13e émission pour cette deuxième saison. J'ai réussi ce soir à récupérer ma place d'animateur et j'en profite donc pour vous manifester toute ma gratitude, les gars, ou attitude grâce, face aux efforts fournis par l'équipe de bénévoles qui s'émancipent même de la technique dorénavant. Bravo à tous. Quant aux auditeurs, on peut également les féliciter pour leur assiduité, car selon le numéro de l'émission, c'était peut-être pas du pâté. Cette semaine, au micro, j'ai le plaisir d'accueillir une équipe de loustiques qui ne se ressemble en rien, hormis le cul de l'église et la radio. Autour de la table, j'accueille donc de retour de Touraine, je présume, Père Tibred. Salut mec, comment ça va?
Ça va et toi?
Ouais, impeccable, t'étais bien en Touraine, hein, c'est ça?
Oui, à Tours, oui. Donc c'est la Touraine, effectivement.
Chouette, c'était sympa.
Ouais, c'était cool. Bon, un peu long, ma femme m'a manqué, mon beau-fils aussi, mais...
On a entendu ta petite performance sur Radio Campus Tours.
Radio Campus, on aime les radios associatives, donc les autres radios aussi, donc on leur fait un coucou dès qu'on peut.
Chouette, les radios s'aiment entre elles, c'est magnifique.
Hein. Ah, il faut.
À ses côtés, il est le champion du monde du fondant au choc, le pote Tony est là aussi. Comment est-ce, Tony?
Ça va et toi, Antoine?
Ça va bien, merci. Tu nous parles de quoi ce soir, Tony?
Alors ce soir, je vais vous faire un peu d'informations satiriques.
D'accord. Voilà. On en parlera. Cacapo, bonsoir Cacapo.
Oui, bonsoir.
Tout juste sorti du boulot, tu nous présenteras un petit papier sur les inégalités.
Oui, tout à fait, c'est ça, exactement, parce qu'il y en a partout.
Et juste après, ce sera la prise de la semaine. C'est Hugo qui nous fera le plaisir de continuer avec une chronique sans mère sur le vélo. Ça roule Hugo?
Bien et toi?
Ouais, carrément. Et bien sûr, Ludo nous ramène de la rigolade. Ça fait toujours du bien de rire en fin d'émission. Salut Lulu.
Salut.
Mais ce sera tout de même Shams qui terminera cette édition avec un papier de verre grain 600, donc plutôt fin pour ceux qui ne sont pas dans le bâtiment.
Non mais je pense que là on va arriver au poli. Là il suffit juste un petit coup de frotte par-ci par-là et hop c'est poli.
C'est du travail de carrosserie.
C'est fini.
Ça va. Voilà, donc des petites surprises dans l'habillage de l'émission. Et c'est donc une entrée en matière pour toi, Tibred.
Ouais, je vais essayer de m'en sortir avec ça. Oui, ce soir, je vais vous parler d'économie sociale et solidaire. Donc, parce que j'ai eu récemment, quand j'étais en Touraine, justement, j'ai eu une discussion avec une connaissance donc sur la place des associations et des entreprises sur le marché du travail. Et selon lui, sur l'activité d'aménagement d'entretien des espaces verts, certaines associations marcheraient sur les plates-bandes des entreprises et leur feraient de la concurrence déloyale. Donc dans son discours, on notait une forte opposition entre les modèles d'entreprise et associatifs. Le premier étant un acteur économique, le deuxième devant se cantonner au bénévolat. Les associations, selon lui, bénéficient d'aides publiques et les entreprises sont lésées. Donc on n'a pas pu continuer la discussion, mais j'aurais aimé lui demander de me parler plus en détail de l'objet social de l'association en question. Parce qu'il m'étonne fortement qu'une association puisse concurrencer directement une entreprise sur un secteur d'activité et générer des bénéfices pour ses membres sans être requalifiée en société commerciale. Bon, quoi qu'il en soit, cette discussion a eu le mérite de suggérer la vision du système économique de mon interlocuteur. Et on sent bien, lorsque je rapporte ses propos, qu'elle est portée par une idéologie particulière. Et oui, l'économie, c'est idéologique, c'est politique. Bon, ne changez pas de fréquence, rassurez-vous, je ne vais pas vous emporter dans un flot de théories compliquées et rébarbatives. Comme moi, vous vous êtes peut-être dit que l'économie était inabordable à notre échelle de simples citoyens et que c'était l'affaire de spécialistes, de théoriciens. Et pourtant, nous sommes d'accord pour dire que l'économie joue un rôle prépondérant dans nos vies, qu'elle détermine notre statut de patron, de salarié, de demandeur d'emploi, de retraité, et qu'elle influe sur notre qualité de vie. Tels sont les principaux enjeux du système économique dans lequel nous évoluons. Et il n'est pas trop tard pour s'y intéresser. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, se joue un grand combat idéologique sur la conception de l'économie. D'un côté, une économie de marché capitaliste et libérale. De l'autre, ce que nous appelons l'économie sociale et solidaire. Donc parlons d'abord de la première. On sait qu'elle prône une liberté totale du marché, censée s'autoréguler, et donc la non-intervention des États dans ce système économique. C'est la notion de libéralisme. Et cette philosophie sert de support aux acteurs de ce système pour capitaliser, amasser des gains financiers. C'est la notion de capitalisme. Et c'est tout. Dans cette représentation, l'économie ne fait donc pas partie de la politique. Elle la surplombe, elle la domine. Toute la vie sociale et citoyenne doit se calquer sur le modèle du marché. Les États ne peuvent pas intervenir dans ce modèle et surtout ne peuvent pas prélever d'impôts aux entreprises. Cela vous paraît probablement antidémocratique et ça l'est. Et si on s'en rapporte aux propos des auteurs qui sont à l'origine de cette conception économique, Milton Friedman et Frédéric von Hayek, le but est de lutter contre un excès de démocratie, contre les actions solidaires. Et c'est ce que nous rappelle Jean-Louis Laville, économiste et sociologue sur France Inter, dans l'émission Agora du 18 octobre dernier. Donc voilà pour la vision capitaliste et libérale. Voyons maintenant l'économie sociale et solidaire qui se veut basée sur des réactions critiques face au capitalisme et à ses conséquences. Si on se rapporte à la définition proposée sur le portail de l'économie et des finances du gouvernement, le concept d'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, de mutuelles, d'associations ou de fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Et ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent. Le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Donc voilà donc qui résume le concept d'économie sociale et solidaire. On va parler chiffres maintenant, car on ne saurait parler d'économie sans donner quelques chiffres. Parce que j'étais à la limite de vous faire penser que c'était juste une notion philosophique. Mais que dit la pratique? Tout d'abord, nous avons un rapport tout récent réalisé par Eurodad avec une quinzaine d'associations européennes, dont la CCFD Terre Solidaire et Oxfam France. Ce rapport se nomme « 50 nuances d'évasion fiscale » et dont nous parle l'Humanité dans un article paru le 2 novembre. Et si on en croit ce rapport, les multinationales capitalistes porteuses de cette fameuse idéologie libérale dont nous avons parlé, ces entreprises qui exercent un chantage à l'emploi sur les pays européens, elles bénéficient de très belles formes d'aide. Pour les inciter à s'installer dans notre pays, le gouvernement français offre des crédits d'impôt compétitivité et emploi, et des crédits d'impôt aux recherches, ce qui coûte au budget français 84 milliards d'euros par an, soit le budget de l'éducation nationale. Ça devrait t'intéresser, toi. Et pourtant, leur impact positif sur l'emploi et l'économie peine à être démontré, regrette Manon Aubry d'Oxfam France. Pendant ce temps, l'économie sociale et solidaire représente 2,5 millions d'emplois en France, 10% du PIB. Les acteurs de cette économie ont créé plus d'emplois entre 2000 et 2010 que les entreprises privées, selon les analyses de Jean-Louis Laville, qui, je vous le rappelle, donc, est économiste et sociologue français. Cette économie joue un rôle important dans les secteurs qui connaissent aujourd'hui une forte croissance, comme le recyclage, la transition énergétique, l'économie collaborative et numérique, ou les services à la personne. Pour reprendre de nouveau les propos de Jean-Louis Laville, quand on parle d'économie sociale et solidaire, on ne parle pas d'un secteur sympathique avec des gens un peu naïfs, on parle d'un choix de civilisation. Comment faire ce choix, me direz-vous? Quel poids avons-nous face à la machine capitaliste et aux multinationales? Tout d'abord, l'État démocratique peut résister. Il subit, mais n'est pas totalement complice de la dictature économique des multinationales. Benoît Hamon, député PS des Yvelines, a été le porteur d'une loi votée l'année dernière. Elle reconnaît l'économie sociale et solidaire comme un mode d'entreprendre spécifique. Un des axes forts de cette loi est de renforcer les moyens offerts aux collectivités territoriales pour développer localement et durablement des emplois non délocalisables, inciter un marché public socialement responsable, encourager le commerce équitable à l'échelle locale et reconnaître les monnaies locales complémentaires ou solidaires. Il faut savoir qu'en région Midi-Pyrénées, l'économie sociale et solidaire représente déjà 11,8% des emplois et 10,9% des établissements employeurs. C'est la région qui est en charge de la politique de développement économique sur son territoire. C'est de sa compétence. Vous comprendrez bien que le choix de civilisation évoqué un peu plus tôt dans mon propos se jouera à la fin de l'année dans le cadre des élections régionales. Sur la même période se déroulera la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les changements climatiques qui, rappelons-le, ont pour cause les modes de production et de consommation du modèle économique actuel dominant. Et le monde est à nous, ne l'oublions jamais. Donc rendez-vous en fin d'année pour parler du choix que nous aurons fait. Et en attendant, ce mois de novembre est dédié à l'économie sociale et solidaire. Pour en savoir plus sur les actions menées dans votre région, rendez-vous sur le site de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc pour nous, Saint-Africains, www.cres-6, donc midi-pyrénées, tout collé, .org. Et pour en savoir plus sur la loi du gouvernement sur l'économie sociale et solidaire, www.economie.gouv.fr. Et Radio France consacre également plusieurs émissions à l'économie sociale et solidaire et au rôle des régions à écouter en direct ou en podcast. Mais tout de suite, pour vous, mes petits concitoyens, à la recherche des petits sous, ça aise.
Petits neurones dans le cerveau qui disparaissent de jour en jour, dans les petits bois, les petits discours, des petits rois dans les basses-cours, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits qu'on joue à pile aux faces, des petits qui vont grossir les ventres, des petits caissiers dans les carrefours, des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits pour payer ton loyer, des petits pour la communauté. Taper, taper sur les claviers des pompes funèbres au cours d'école pour voir comme les petits sont fringués. Y'a de la griffe sur les guiboles, des petits insectes sur les fleurs, des petits bugs dans le computer, des petits pour l'eau, des petits pour l'air, des petits pour pourrir l'atmosphère. Marcher, marcher, les petits pinsons, les petits rois, les petits cons, des petits pour vendre qui on est à la criée sur les marchés. Petit chèque en fin de mois, non lui il se multiplie pas, comme le cynisme dans les sourires, des petits tartuffes dans les parties, des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits qu'on joue à pile ou face, des petits qui vont grossir les gros, qui rendent les petits toujours plus petits, pour que le petit n'ait d'autre choix, pauvre de lui que de faire des petits. Oui, oui, des petits sous, qui veut des petits sous, des petits sous, des petits sous.
Les petits sous de Damien 16 sur son album J'accuse, il me semble. Merci beaucoup, Tibred. C'était sacrément documenté. Bravo, bravo. Donc, le mois de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, pour les initiés, n'est-ce pas ? C'est marrant, ça tombe. Aujourd'hui, il y avait une réunion de la DPS, qui est donc l'organisme qui recense les actions d'économie sociale et solidaire en Midi-Pyrénées, à Saint-Afrique, organisé par l'association ID, juste à côté. Ça a duré toute la journée. Merci beaucoup, et pour rester dans l'actu, mais qui vire un peu satirique, il faut ce qu'il faut, j'ai nommé Tony.
Bonsoir à toutes et à tous. Premier cas de « Tu fais quoi pour le 31 ?» détecté dans le sud-ouest de la France. L'alerte a été donnée par le maire de Saint-Afrique lundi lors d'une conférence de presse. Une cellule de crise est ouverte. Ne paniquez pas, ce sont les premiers mots prononcés par les élus de la commune. Alors qu'un premier cas de « Tu fais quoi pour le 31 ?» a été détecté dans un salon de coiffure de Saint-Af, fin octobre, la personne avait immédiatement été maîtrisée et mise en quarantaine par les autorités. Des risques de contagion un peu partout. Les risques de contagion sont passés de faible à fort sur toute la commune. La contamination peut venir de vos proches, d'un ami ou même d'un simple collègue de travail que vous n'aimez pas. Selon les experts, une fois que l'on vous a demandé ce que vous avez prévu pour la Saint-Sylvestre, il y a un effet domino et vous allez poser la même question à tout votre entourage. Les « tu fais quoi cet été » attendus pour mi-février. En attendant la fin de cette épidémie, les autorités réfléchissent déjà à un plan d'action pour contenir l'arrivée des premiers « tu fais quoi cet été ». Le but étant qu'ils n'apparaissent pas avant le mois de mars prochain, malgré les prévisions alarmistes des spécialistes qui annoncent leur arrivée dès la mi-février.
C'est la fête ! C'est la fête !
Alors l'OMS place une agence immobilière en quarantaine après la découverte de 3 cas inquiétants d'honnêteté. En effet, l'OMS a dû tirer la sonnette d'alarme après la découverte de plusieurs cas d'honnêteté dans une agence immobilière de Saint-Afrique. Le premier cas a été signalé par un client qui voulait acheter depuis plusieurs mois. Les premiers symptômes seraient apparus il y a déjà 2 semaines. Ils m'ont conseillé d'acheter un appartement parce qu'il y avait... d'acheter un appartement parce qu'il y avait trop de travaux à faire pour le prix de base. Témoigne Denis qui a alerté les autorités.
Le stagiaire s'est fait virer par la suite.
Putain, c'est contagieux ça ?
Donc petit à petit, les symptômes viennent confirmer le diagnostic. Des crises de droiture, des poussées de sincérité et 2 grosses tumeurs de franchise dans le cou. Nous confie un membre du service des maladies infectieuses de l'Institut Louis Pasteur. Plusieurs théories sur la façon dont les employés de l'agence auraient pu contracter le virus. La plus crédible, lors d'un voyage en Amazonie, l'un des employés serait entré en contact avec des adjoints porteurs du virus de l'honnêteté. Des cas qui inquiètent puisque l'homme occidental est censé être naturellement immunisé contre l'honnêteté. Avant l'élaboration d'un vaccin, un traitement naturel à base d'essence d'avocats d'affaires et de politiciens est à laisser sur les malades. Six conseils pour réussir son entretien d'embauche. Alors premièrement, portez des vêtements. Dans le monde de l'entreprise, la plupart des gens portent des vêtements. Sachez vous adapter à votre environnement. Deuxièmement, amenez un cadeau. C'est une manière de vous démarquer de vos concurrents en montrant votre générosité. Vous pouvez apporter un petit objet rigolo ou une boîte de caramel. Un gâteau, des fois ça marche. Mais le plus efficace, c'est d'offrir du pognon en fait. Alors troisièmement, ne commencez pas l'entretien par un AK. Un entretien d'embauche est une confrontation. Il est peut-être tentant de l'aborder comme tel en exécutant une danse guerrière devant votre recruteur, mais sachez-le, les recruteurs ont tendance à préférer les candidats qui ne font pas ou peu de AK. Quatrièmement, camouflez votre nazisme. Votre recruteur soutient probablement la liberté d'expression et la pluralité des opinions, mais il serait contre-productif de mentionner immédiatement votre admiration pour le Troisième Reich. Ce pourrait être clivant. Vous aurez tout le loisir de le faire une fois embauché. Cinquièmement, acceptez d'être payé en fromage. Les recruteurs sont très sensibles à la question de l'argent. Moins vous leur coûtez, plus vous êtes intéressant. Accepter d'être payé en fromage vous donnera donc un avantage décisif sur les autres candidats. En revanche, n'hésitez pas à exiger la qualité, genre du Morbier, du Lavaro, du Chaussée-aux-Moines. Évitez le Roquefort, ici ça pousse dans les arbres. Sixièmement, répondez amendement à une question sur deux. Le propre des gens bilingues, c'est qu'ils changent de langue sans s'en rendre compte. Grâce à cette méthode, même si vous n'êtes pas bilingue, vous pouvez faire croire le contraire à votre recruteur. Bref, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, les infos satiriques, c'est fini.
Et toi alors, tu as changé comment ?
Oh, les blocs, tu dégages l'escalier, tout ça c'est fini.
C'est vraiment fini, mais alors tu as changé comment exactement ?
Je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse tout dans le petit bonhomme est vert. Depuis que je suis plus une Kaira, j'ai largué mon pitbull, j'ai pécho un chihuahua.
Ah ouais ? Ben moi mon caniche s'appelle Scott, et je ramasse toujours quand tout fait sa crotte. J'suis passé de brut et perse à secouriste, et j'ai troqué mon Scarface pour le choriste.
Moi, j'ai arrêté les grecs frites, j'fume pas de shit, j'dis même bonjour aux chouettes. Bonjour monsieur, j'me lève plutôt que les mamies, j'donne du pain aux petits oiseaux et j'nourris les chats la nuit.
Bonjour ma chérie, alors tu as attrapé beaucoup de voleurs aujourd'hui, hein ?
C'est fini la boxe taille, je fais du tricot, je bataille avec les mailles.
Après les cours, j'ai bu une pomme, un payé dans mon cabas. Direct, j'ai fait le qui sait, je me suis lance pas.
Allô, police, pour la pomme, c'était moi.
Oh, je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse que quand le petit bonhomme est fier. Je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse que quand le petit bonhomme est fier.
Face aux indigents, et si je trouve de l'argent, je le remets à monsieur l'agent. Moi, je suis un vrai gentleman avec les dames, en mode bien longtemps, fini les polygames. D'abord, je tiens droit, j'écris des poèmes, moi je traîne pas les pieds, je parle pas la bouche pleine.
Je dis plus, ouais, gros, trop misto, mais plutôt, bravissimo ce chevreau sur lit de poireau. Je racontais à ma maman qui me disait, mange tes pattes. Maintenant, je suis diplomate, et maman, je les batte.
Moi aussi, je soigne mon phrasé, plus de web assis, que t'es
très cher, formidable.
Façon bourgeoisie, chien, pêche, tradition, plus d'art sans les dents. J'écoute du Céline Dion.
Merci beaucoup Tony, c'était le son des Lascars pour ceux qui ont vu le film Lascar. Et on continue avec les jeunes, place à Hugo qui nous pond cette semaine un petit papier sur le vélo et son histoire. Et
oui, exactement, alors je ne sais pas par quoi commencer, je vais commencer par le début.
Par le en haut à gauche toujours.
Ouais, alors le vélo, ça fait partie des objets quotidiens, tellement naturel et utile que nous ne pouvons même pas imaginer la vie sans. Et pourtant le vélo, vélocipède pour les intimes, serait né en 1817, à l'initiative d'un baron allemand du nom de Karl Dre von Seenbrunn. C'est difficile à dire, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, il faudra lui demander. Qu'est-ce que tu...
Je parle dans le micro, je parle mieux dans le micro.
À l'origine, il n'avait ni pédale ni frein, ce qui explique peut-être pourquoi le baron appelait l'instrument « Loft Machine ». Ou,
Luftmaschine, ja.
Ou plus facile à comprendre, la machine à courir. Il fallut attendre une cinquantaine d'années pour qu'apparaissent le vélocipède à pédale. Il est suffisamment confortable et fiable pour faire partie de notre vie quotidienne, dès notre plus jeune âge d'ailleurs. Même si fiable et confortable, il est dangereux, alors le casque est indispensable. Tout ça pour dire, le vélo est indispensable dans la vie. Maintenant, on va pas se mentir, le casque, ça sert à peu près à tout, sauf à avoir la classe. Alors, dès que des jeunes et des vieux se cassent la gueule par terre, alors des fois, on sort avec quelques égratignures et une petite migraine. Mais des fois, ça se finit dans un coma, une dizaine de points de suture, puis des côtes fêlées et des épaules luxées, des dents cassées, etc. Petite parenthèse commerciale. Le prix de toutes les gammes de VTT électriques. C'est entre 1 000 et 3 000 euros, voire plus.
Le VTT électrique.
Ouais, c'est... Ouais,
le VTT. Les trucs d'assistance.
Mais enfin, voilà, quand t'es en descente, t'éteins le moteur, et quand t'es en montée...
Ouais, mais ça se bricole, ce genre de truc.
Ouais, il y a moyen de faire du 120 comme en bibliothèque, quoi.
Ouais, mais il y a des personnes âgées qui l'utilisent, du coup.
Du moment que tu mets un casque, moi, ça...
J'en étais donc. Et après, pour un VTT normal de gamme moyenne, on peut compter entre 500 euros et 1500 euros le vélo neuf. Donc, c'est-à-dire...
Ah, ça fait déjà du bon vélo,
ça fait déjà 1500 euros. Ouais, 1500 euros, on tombe sur du bonne gamme. 500 euros, c'est la gamme moyenne.
Ouais.
Avec une bonne suspension, etc.
Ah ouais, j'ai jamais eu un vélo à 500 euros.
Moi non plus.
Ah ouais, tu vois, je sais bien.
Mais enfin, voilà.
On est à combien d'heures de babysitting, déjà?
Enfin, bref. Alors, après, le vélo qui coûte le plus cher au monde, ça part à peu près de 10 000 euros. Ça peut monter jusqu'à... Je sais pas, je pourrais pas dire le prix exactement, parce qu'il doit quand même d'avoir des mecs qui ont inventé des vélos. Enfin bref. Et ouais, c'est pas gratuit d'avoir une passion. Comme disait un mec, un truc à la télé, vite fait. Enfin bref, j'ai oublié. En tout cas, le vélo, c'est pas une religion, mais c'est surtout un videur de porche-monnaie. Ça, c'est sûr. On va parler du vélo et ses améliorations. À Dakar, une conférence consacrée à l'innovation a été à la propriété intellectuelle se tient jusqu'à ce jeudi 5 novembre soir. Bon.
Attends, redis, soir. Moi j'ai pas compris.
À Dakar, la conférence consacrée à l'innovation et à la propriété intellectuelle se tient jusqu'à aujourd'hui, ce soir, donc voilà, 5 novembre, soir. Loin des salons feutrés, les jeunes Sénégalais et Français de Cinécyclo n'attendaient pas à la conclusion de ce débat pour créer leur idée. Utiliser un vélo pour créer des mini-cinémas qui sont installés dans tout le Sénégal durant 6 mois pour permettre à la population d'accéder au 7e art. Donc en fait, c'est des Sénégalais qui ont inventé un vélo, donc tu pédales comme un ouf. T'as des batteries, enfin du coup c'est un vélo fixe, bien sûr. T'as des batteries qui sont installées à l'avant, et donc tu pédales, je sais pas, environ 20 minutes, et t'as tes batteries qui sont pleines, et tu peux te lancer un petit film de 20-30 minutes.
En gros, tu fais le hamster, mais en pédalant, quoi.
C'est
quoi. Je crois même que genre, pour les Américains, pour lutter contre l'obésité, ils ont fait des téloches qui marchent quand tu pédales, quoi. Tu arrêtes de pédaler, la télé s'arrête.
Oui, mais c'est magnifique. En Touraine, il y a un crew DJ aussi. Ils ont une sono mobile avec, avec des vélos comme ça.
Ah, okay.
Comme quoi, le vélo, c'est super utile.
C'est super utile, le vélo. Alors bref, le vélo, c'est un métier dans l'âme. Pour toutes ces raisons, de nombreuses entreprises ont choisi de privilégier le vélo pour leur livraison à courte distance. On pense aux facteurs, bien sûr, mais il existe aussi des centaines de coursiers à vélo, à Paris. Ils affrontent la circulation rugissante pour livrer le plus vite et sans polluer. Vos colis urgents, c'est un métier dur. C'est un métier dur, sportif et non sans risque. Surtout quand on connaît la conduite des automobilistes du coin. Enfin,
voilà. C'est pour ça qu'ils ne le font pas à Marseille. Ils ne le font qu'à Paris.
Ils sont loin des babouins qui... Oui, c'est bien ce que je dis. Des babouins qui chancelaient sur leur vélo. Les coursiers fusent, slalomant, choisissant les meilleures trajectoires. Et font jusqu'à 100 km par jour. Si ce métier a toujours existé, il semblerait qu'il en ait... recrudescence. C'est quoi recrudescence?
Une recrudescence, c'est quand ça revient. C'est un retour en force.
Ok. Une recrudescence et une professionnalisation depuis quelques années. Parce que c'est cool, bobo, écolo, et que ça fait. Et c'est de se faire livrer en vélo.
Eh ben voilà, Hugo, on connaît ton prochain métier.
À quoi ça sert un vélo? À tout. Aussi bien à se promener qu'à déménager, à amener des. Bêtes choses à draguer, qu'à draguer, qu'à ramener des bêtes choses chez soi jusqu'à aller jusqu'à draguer, aller travailler, aller travailler et à déjouer les pièges de la circulation. Regardez cette jeune femme, enfin en fait c'est sur une image donc en fait j'ai oublié de l'enlever. Enfin bref, donc c'est une jeune femme qui est en plein milieu. Donc c'est une jeune femme qui est en plein milieu de la circulation. On la voit traverser entre les voitures dans un grand mouchoir à Paris. Donc regardez cette jeune femme qui tire son épingle du jeu dans cet embouteillage inextricable. Putain, j'ai des problèmes de lecture. Combien d'automobilistes coincés dans leur habitacle se disent qu'ils auraient bien dû monter sur leur vélo? Ils seraient bien sûr arrivés plus vite à leur destination. Alors, destination. Rappel, en ville, la vitesse moyenne d'une voiture ne peut pas dépasser les 20 km/h. Donc j'espère à vous... What? J'espère que vous en avez...
Vous allez choisir le vélo
de, oui, voilà, c'est ça. D'abord, j'espère que vous allez bientôt choisir votre vélo pour plus d'écologie. Parce que vous savez, en ce moment, ils sont en train de nous gonfler, ils nous ont enlevé nos dessins animés, mettre des trucs sur la pollution et tout. C'est merdique, ça. Bon, allez, ben, j'ai fini ma chronique. Ben, je laisse la place à...
Merci, Hugo. On sent que tu as l'air quand même plutôt convaincu.
Bien,
ouais, je... Il va finir coursier, oui, c'est sûr.
Ben, ouais, ben,
à Marseille.
Ou livreur des kebabs.
D'ailleurs, peut-être... oui, ouais. J'en ai parlé, donc ceux qui m'entendent, je vais bientôt peut-être être livreur de kebab chez...
chez on avait dit pas de pub. C'est bon.
Donc,
bon.
Si.
Faut, ouais, je vous conseille de ne pas commander un kebab à Hugo parce qu'avec les roues arrière et tout, je ne vous dis pas dans quel état la bouffe elle arrive. Quoi.
Non, mais sérieusement, donc je vais bientôt faire livrer des kebabs. Donc, si vous appelez le camion kebab, ben, vous demandez à ce que ça soit livré, comme ça le truc se mettra en route et tout. Et tout
par Hugo, voilà. D'accord.
On demande okay. Que ça soit livré par Hugo.
C'est à domicile surtout.
On fait
à domicile.
C'est la classe, hein, nickel.
C'est la nuit.
Au cul de l'église, mon gars.
Merci Hugo pour ces précieuses précisions. On te regardera plus jamais faire des roues arrière de la même façon dorénavant et on commandera plus de kebab, bien sûr.
Avec la prise de la semaine,
mais monsieur, où est allé votre penchant ?
Comme je n'ai que ça.
Avec la prise de la semaine,
faites-vous plaisir.
Allez, enfin cette semaine, parce qu'on en parle depuis quelques semaines, je vous demande de nous proposer à tour de rôle un bruit bizarre. Alors, on va faire un petit tour de table et dès la semaine prochaine, n'hésitez pas à ramener dans le studio les bruits les plus étranges que vous entendez. On décernera une palme sûrement en fin de saison. Alors on commence tout de suite avec Tony, qu'est-ce que tu nous as ramené comme bruit? Ouais, cacapo. Ouais, Lido.
Moi j'ai été pris de courant.
Hey, pas mal, pas mal. Alors moi j'ai trouvé ça.
Bon.
Petit bread.
Je t'ai pris de court, pareil, alors...
Hugo. Ça, personne peut deviner ce que c'est. Et Shams, enfin.
Ah, putain, ça sonne pas.
Ah, ça s'entend quand même. Voilà, et donc, n'hésitez pas à ramener des trucs pas possibles. On va essayer de se faire des petits contests de bruits bizarres pour voir si les micros arrivent à vraiment tout enregistrer. Donc, en parlant de bruits bizarres, ma prise de la semaine, cette semaine, elle en est pas mal clafite, faute de mieux.
C'était mes dernières forces pour faire ces quelques lignes. Bonjour, nous sommes sur Radio Sainte-Afrique et j'ai la crève.
Je l'ai vu se marrer.
Elle n'est pas sortie de l'auberge.
Il y a eu un bruit bizarre quand même.
€3,36 s'il vous plaît.
Et oui, écoutez ça!
Hourra!
Olé!
Et voilà, c'était donc la prise de la semaine la plus étrange et la moins explicite pour le moment, mais on doit bien pouvoir faire mieux, hein, voilà, je m'y attellerai. Et place au générique que tout le monde attend.
Z doit appartenir à l'ensemble...
Les atomes et les particules encore plus petites...
C...
Protons et neutrons...
Moins... 0. Z plus 5 sur Z égale
la gravité se propage
dans l'ensemble des nombres complexes grand C.
Un minuscule brin d'énergie
courbe et des distorsions
K dans le tissu même K de l'espace et du temps.
Oh. Quelle est la condition sur les solutions?
Selon la théorie des cordes,
il est
les constituants de la matière.
Votre explication ne me suffit pas.
J'ai pourtant clair.
Capo.
J'avais marqué un truc pas gentil, et puis j'avais...
moraliser le capitalisme, donc d'abord déjà bonjour à tous et à toutes. Donc moraliser le capitalisme pour éviter les dérives. C'était les grandes promesses de 2008 au début de la soi-disant crise. C'était plutôt de désamorcer la colère qui se faisait jour et faire payer les peuples via les politiques d'austérité. 1% posséderont tout et 99% n'auront rien. En 2014, les 1200 entreprises mondiales distribuaient aux actionnaires quelques 1200 milliards de dollars, soit 133 milliards de plus qu'en 2013. Souvenez-vous aussi, au début de cette crise, en 2007-2008, durant laquelle des milliards d'argent public ont été injectés pour sauver les banques, fragilisant ainsi des États et permettant aux marchés de les attaquer, à fragiliser encore un peu plus les dispositifs publics visant à limiter les inégalités sociales. Mais notre époque est marquée par une situation complètement paradoxale. Jamais l'humanité, et notamment les pays développés, n'ont produit autant de richesses. Jamais les salariés n'ont été autant productifs, sans pour autant avoir d'augmentation.
On ne va pas y passer la nuit.
Cul de l'église, mon gars.
Certes, les inégalités sont diverses, qu'elles soient de revenus, d'inégalités hommes-femmes, de patrimoine, de classe, de genre, culturel, territorial, elles s'entrecroisent et bien souvent s'additionnent. Les plus injustes et importantes sont sans aucun doute celles des richesses, qui connaissent une hausse depuis l'avènement du néolibéralisme à la Reagan-Thatcher dans les années 80, avec la mise en place des politiques de déréglementation et de dérégulation. Le recul de la pauvreté calculé au niveau planétaire masque en réalité une explosion des inégalités, notamment de revenus à l'intérieur de chaque pays. Entre 2003 et 2013, 10 ans qui ont marqué une très nette hausse des inégalités de revenus, surtout depuis 2008, où non seulement les hauts revenus s'envolent, mais les plus pauvres voient leur salaire en baisse. Les inégalités qui minent le monde sont à l'origine de mobilisations importantes, mais aussi de la montée des mouvements d'extrême droite, qui oppose sécurité et identité au principe d'égalité. Mais entre 2000 et 2008, 10% de plus pauvres, ont gagné en moyenne 33 euros de plus par mois, une hausse faite par l'inflation, notamment des loyers. Quand, en même temps, les 10% plus riches prenaient 746 euros de plus par mois, soit 19% d'augmentation, alors que les plus pauvres, c'était que 5,3%. Pour nous les pauvres. C'est d'ailleurs la caractéristique majeure des 10 dernières années. L'accroissement des inégalités a un rythme exponentiel, mais depuis 2008, les 10% les plus pauvres ont eu une diminution de 22 euros par mois. Le point noir reste encore le logement et le chômage. Pour une fois là, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Cela touche autant les hommes que les femmes. Il reste encore ces 16,9% d'augmentation du taux de pauvreté en Europe entre 2008 et 2011. La pauvreté progresse en France et en Europe. Comme le dit Robespierre, en 1792, nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim.
J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée. Y'a pas de champ de canon, j'achère. Tous les jours on y laisse sa sueur et sa chair. Et nos pauvres corps meurent sans repos ni fraîcheur, avec chapeau et foulard pour contrer la chaleur. Descendant de ces féroces croisières négrières, on garde force et courage en chantant à plusieurs. Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs. Nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs. Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière du fouet, lever les paupières vers la lumière et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure où le nègre hisserait une bannière à ses propres couleurs. On a mangé la poussière de la pire des manières, peu fier de retourner dans la plantation d'hier. La mer est une frontière, comment aller ailleurs? Désormais libre, ouais, mais toujours inférieur. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corps. À un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées. Ma vie est rivée à un sac de sucre. Où va le fruit de mon labeur? La douleur de mes bras et mes lombaires, la lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures à ratiboiser la canne pour battre ma misère. Et les blancs sont aisés, malins et rusés, ont belle maison et timoun scolarisé, soi-disant qu'il ne faut rien leur refuser. Moi j'ai la peau sur les os, sous une chemise usée. J'ai aidé les voisins, rassemblé mon réseau. J'ai sorti mon coutelas, aiguisé mes ciseaux et pris la décision sans trouble ni confusion de baptiser le béquet d'une belle incision. Malfaisant, insolent, sur son trône installé, estimant comme son bien des terres qu'il a volées. Son destin sera le mien dès qu'il sera esselé. Il va entendre et comprendre et il pourra bien gueuler. Je laverai l'affront, je vengerai l'Afrique, les fonds de cale et le travail forcé à coups de trique. Et si le rhum et l'argent coulent à flot, c'est que j'ai un sac qui pèse un massacre sur le dos. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre?
Merci beaucoup, Kakapo. La musique qu'on vient d'entendre, c'était bien sûr un sac de sucre de Kazé.
De Kazé. En plus, tu m'as dit au dernier moment que tu l'avais en vinyle et ça fait bien plaisir de l'entendre.
Et voilà, absolument. D'ailleurs, le vinyle tourne toujours.
Ouais, il tourne toujours.
La police fait ce qu'elle peut, mais les vinyles tournent toujours.
C'est clair.
Et c'est au tour de Ludo de nous faire poêler un bon coup. Alors ça sera peut-être un peu nostalgique aujourd'hui. Hein,
ouais, c'est pas clair. Trop rigolo. Enfin, ça peut l'être, quoi. Ça dépend. Amis nostalgiques de nos bons vieux dessins animés, je t'ai concocté un petit retour en arrière, direction les années 70, plutôt 80, jusqu'à 90. C'est parti, on commence avec ça. Donc, vous avez bien reconnu les aventures d'Esteban, les mystérieuses cités d'or, une série franco-japonaise diffusée pour la première fois en France en 1983 sur Récréa 2. Ensuite, il y avait ça. Tout le monde a bien reconnu... Ah non, vas-y, laisse-le continuer. Voilà. Tout le monde a bien reconnu la magnifique voix de William Lémergie, qui chantait Pac-Man, un dessin animé qui est sorti en France en 84, encore sur Récréa 2, ma foi. Il faut savoir aussi que Pac-Man était un jeu, enfin est toujours un jeu vidéo créé par Toru Iwatani, pour la petite info, sorti au Japon le 22 mai 1980. Donc ça a déjà quand même...
On n'était même pas nés.
Ouais. On enchaîne avec du plus ancien.
Hegel et Jekyll sont de drôles d'oiseaux, de joyeux corbeaux.
Alors ça, c'est beaucoup plus vieux. C'est les aventures d'Ekel et Jekyll. Ekel et Jekyll, qui sont deux personnages de dessin animé et de bande dessinée aussi, créés par Paul Terry en 1946, quand même. C'était diffusé sur France 3, si je me rappelle bien, ok. Ensuite vient ceci.
Va, geste, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, geste, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, geste, conquérant du bonheur, viens libérer le monde.
Voilà, donc ça c'était Jess et les conquérants de la lumière. Que moi j'aimais carrément trop bien. De toute façon, j'ai mis que mes préférés. Voilà. Est une série télévisée d'animation franco-américano-canado-japonaise, s'il vous plaît, créée par Jean Chalopin et Haskell Barkin, sortie en France en 1985 sur TF1. Au suivant, on a ça. Alors ouais, ça c'était Les Mondes Engloutis, série télévisée d'animation française créée par Nina Wallmark et sortie en France en 85, à la même époque que Jesse et Conquérant, sur France 2 par contre, voilà. Ensuite, il y avait aussi ça. On va faire ce genre de quiz pour la... Alors, qui est reconnu ?
Ah, mais moi, c'est de la triche, je les ai déjà vus.
Alors, qui est reconnu ?
Chapi, chapeau,
voilà, c'est ça.
Copieur, Hugo.
C'était Chapi, chapeau, une série télévisée d'animation créée par Italo Bettiol et Stefano Lonati. Et pour la première fois diffusée en 1974 sur la deuxième chaîne de l'Office de Radiodiffusion Télévision Française.
ORT quoi.
Voilà, c'est ORTF, c'est ça. Suivant s'il vous plaît. Bayou Badou. Alors est-ce qu'il y a des. Il y en a qui connaissent
Bayou Badou.
Non
Bayou Badou.
Ça veut dire rien, bah c'est assez vieux, hein. De toute façon je suis plus tout jeune non plus, donc j'ai mis des trucs vieux.
Il va nous faire pleurer.
C'est la Linéa. Vous vous rappelez de ce truc, la petite histoire avec le bonhomme qui est dessiné au fur et à mesure
C'est un trait
qui avance. Voilà.
Série télévisée d'animation à la base italienne, créée par le dessinateur Osvaldo Cadandoloni, et diffusée en 77 sur TF1 dans l'émission. Donc L'île aux enfants avec Casimir, créé par Christophe Fizard et diffusé sur France 3.
Ah là carrément, on a failli pas récupérer la parole quoi. Genre, il était dedans.
Il était à fond.
Ah, mais apparemment, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'enchaîne. En 1975, est-ce que vous en voulez encore ?
Ouais.
Venu du nul par ses cobras, plus vif que le serpent ses cobras. Personne ne l'a.
Donc vous avez reconnu
Cobra.
Non, vous avez pas reconnu Cobra, d'accord, ok, d'accord. Donc série d'animation japonaise créée par Buichi Terasawa et sortie en 1985 dans l'émission Kabukadin sur Canal+. Donc ensuite, il y avait ceci. Ouais, je suis grillé, direct. Donc pareil, série télévisée d'animation japonaise produite par la Toei Animation, diffusée pour la première fois en 81 quand même sur TF1.
Mais c'est quoi ?
Capitaine Flamme.
Ah, okay. Eh oui, c'est pas ta génération, toi.
Tu
regardes pas, de toute façon, toi, c'est la console.
Ouais.
Non, ouais, d'accord.
Ouais, c'est un peu plus.
Il y a plus de dessins animés maintenant, ils font des espèces de trucs d'animation.
Et sur l'écologie, c'est.
Ouais, ouais.
C'est écrit qu'il faut pas polluer.
Parmi ceux que j'aimais bien, il y avait aussi ça.
La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie.
Voilà, vous avez tous reconnu.
Il était une fois la vie.
Yes.
Oh, c'est magnifique, c'est magnifique.
Série télévisée d'animation franco-japonaise.
Éducative.
Créée, ouais, carrément, carrément. C'était trop bien.
C'était quoi l'histoire en fait?
C'était l'histoire des globules rouges et des globules blancs.
C'est tous les potes qui sont dans le corps et hop, t'as les petits anticorps.
Ouais, alors, y a, t'as y a, les petits pompiers. Il y a un truc comme ça.
Avec un petit barbu.
Barbu,
ouais,
c'est le cerveau.
Blanc. Ouais, qui ressemble au truc dans l'Hobbit là.
Lui, son corps, c'est une barbe. C'est un genre de Gandalf du corps humain.
C'est vrai que ça a été remis au goût du jour. Il y a une nouvelle version
en 3D encore. Lui, son corps entier, c'est une espèce de barbe flottante.
Ouais, c'est ça.
Donc ça a été créé en 86, enfin diffusé en 86, créé par Albert Barillet et diffusé à partir de 87 sur Canal+ et ensuite sur France 3. Ensuite, j'ai trouvé ça que j'aime bien.
Je suis Phileas Fogg et en 80 jours, je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur.
Alors ça c'était le tour du monde en 80 jours, avec le fameux Phileas Fogg, n'est-ce pas, qui était une série télévisée d'animation nippo-espagnole, créée en 81 par Claudio Byrne Boyd, d'après le roman de Jules Verne, et diffusée en 83 dans Recréa 2. Donc, un petit avant-dernier. Voilà, ça c'est plutôt jeune non plus. Vous avez pu reconnaître...
Calimero.
Bien.
Ça suit, ça suit.
Tu connais Calimero?
Ouais.
Sérieux?
C'est vraiment trop injuste.
Mais c'est, il est là, la,
il est dans la télé.
La coquille là, dans, sur ça. La tête là, comme ça, avec la coquille à moitié passée. C'est trop injuste.
Tu as bien reconnu Calimero, ce personnage de dessin animé, ce petit poussin anthropomorphe charmant, mais malchanceux, d'origine italienne. Créé par les frères Nino et Tony Pajot, ainsi que par Ignazio Colnaghi. Calimero est né en 62 et est apparu à l'écran dans les années 74-75. Donc, j'étais pas né, quoi. Je finirai par un petit classique. Oui, quand même. Moi qui, à l'époque, aimais déjà l'école buissonnière. Voilà.
Il y a tout le scoutisme à Fred qui est en train de lui remonter. Et tout.
Tom Sawyer, il voulait la pas bonne antenne. Propagande américaine. Donc une série télévisée d'animation réalisée par Hiroshi Saito en 1980 et diffusée sur Recréa 2 et France 3 en 1982. Donc voilà, il y avait encore Albator, Olivier Tom, Princesse Sarah, les mini-pousses, les entrechats, Maya l'abeille, Candy, Ulysse 31, j'en passais des meilleurs. Enfin, que des bons souvenirs pour moi. Quand on regarde à quoi ressemblent les émissions d'animation de nos jours, je suis content d'avoir vécu cette époque-là. Voilà, à bon entendeur, salut.
Et enfin, pour une bonne fin d'antenne live, il nous faut, bien sûr...
Il s'est endormi sur Tom Sawyer.
Mais non.
comme vous le savez depuis peu à la radio, un recrutement s'est lancé quant au poste d'animation qu'occupe Aurélie. Évidemment, mon esprit diabolique a tout manigancé.
Le conquérant.
J'ai tout manigancé pour que la fin de son contrat corresponde à la fin de la formation de Forge que j'entreprends et actuellement.
Avec l'alignement des planètes.
Exactement. Ça, c'était soigné au poil de cul. Dès lors, j'ai fait savoir que je postulais à ce poste. Seulement, après avoir envoyé un CV, il s'est avéré qu'une lettre de motivation était nécessaire. Soit, vous voulez une lettre, vous allez la voir. Bientôt, vous saurez tout sur les coulisses de la radio. Sarah, Tony, Shams, T-Bread, qui remportera le poste, vous le saurez dans le prochain épisode. Ouais, non, la radio-réalité, je crois qu'on va laisser ça à Greg. On va pas faire de plagiat, il adore ça apparemment. Ce sera sûrement pour le courant du mois de novembre.
D'ailleurs, il nous avait sollicité pour faire de la pub pour son émission ce soir. Ouais. Bon, pas de toupet quand même.
Carrément. Quelle émission ?
Alors qu'il s'est barré au début. Le 12-12.
Ah, le 12.
Ah, mais je te jure, les salariés.
Eh, Greg.
Tant qu'il viendra pas, ouais. Tant qu'il viendra pas, on le fera pas.
Donc, pour définitivement convaincre la population de la nécessité de mon recrutement au sein de la radio, je vais vous lire ma lettre de motivation, qui est bien évidemment radiophonique. Écoutez bien. Salut les potes. Comme que si bien que vous le savez, gratter des thunes là où ce qu'il y en a, c'est quelque chose que je fais bien. Mais gratter des thunes là où ce qu'il y en a pas, c'est un domaine où j'excelle. La possibilité pour moi d'incarner des valeurs patriotes qui sont contemporaines de notre siècle de démo-dictature est une chose dont je rêve depuis longtemps. De passer de mon haut grade de vice-président à celle de simple employé permettrait non seulement de remonter le moral des troupes au cœur même des tranchées, mais aussi de les martyriser in situ. Bien entendu, je pense que vous allez douter de ma sincérité et de mon sérieux au travail. Je tiens à préciser que je ferai tout pour ma radio. Ma motivation n'a pas de limite. Faire de l'actu locale quotidiennement, cirer les pompes aux élus et personnes de noblesse est une perspective qui ne me fait pas peur. Partout, le flouze, la maille circulerait, je serai là. La trésorerie s'en trouvera beaucoup plus aisée, et moi aussi. Sachez que rien ne m'arrêtera. Tous les gens, tous ayant postulé, ont déjà un scénario qui est établi. Et j'ai l'entier soutien de Mortus Corporatus. Gaspard Chambon m'a fait un devis estimatif hier, et ça coûte pas si cher. Hein. Par exemple, Tony, lui, il doit décéder après des jours d'agonie d'un mal de dents qui n'est autre que le cyanure glissé dans son sandwich il y a 2 semaines. Sarah, quant à elle, doit être électrocutée dans le studio avec la ligne 48 volts du micro vert. T-Bread ne s'est même pas aperçu de l'arsenic que j'ai versé dans sa bière tout à l'heure. Et Audrey Barat doit normalement... ouais, non, elle postule pas, je sais, mais c'est pour le principe. Bref, tous les concurrents seront éliminés sans délai avant les entretiens d'embauche. Pour attirer votre œil sur mes capacités légendaires à chauffer le studio, à faire baver l'auditeur transi qui, allumant son poste radio, ne pense plus qu'à s'agenouiller devant son seigneur et maître, en un seul mot toujours, son seigneur et maître des ondes d'un spectre si étendu que même le paradis peut capter Radio Saint-Af. D'ailleurs, j'ai reçu un mail de Dieu tout à l'heure qui nous félicite encore pour notre direct du jeudi soir.
Ça va ?
Dieu, je peux m'empêcher de vous lire. Alors, donc... Salut les kikis, salut les loulous. Bravo pour l'émission, c'est vachement cool. Je vous entends pas toujours très bien du fond du cul de l'église, il faut dire que les voix du Seigneur sont impénétrables. Cela dit, les sujets sont sympas, même si je trouve que ça manque de filles au micro. Sinon, comme on fait pour la bouffe mardi soir, bon après le reste a peu d'intérêt à être lu. Tout ça pour dire que bientôt nous serons le Vatican de la radiophonie mondiale. Notre capacité de parler de science, de religion et de laisser la part belle à l'écologie en portant la voix des animaux en voie d'extinction... Dédicace Cacapo représente, ouais, n'est-ce pas ? Ouais. Tout cela sont des initiatives qui plaisent à Dieu. Et donc, vous conviendrez avec moi, cher CA, que j'ai fait plus fait pour la radio que Saint-Pierre qui faisait rien qu'à picoler avec Judas. Vous pensez certainement que je suis un peu réac. Bon, je suis un peu trop borderline dans mes sujets, certes. Pour ce qui est de l'animation libérée, orchestrée chaque jeudi, je vous répondrai que mes revendications prennent place uniquement dans ce genre de contexte, où, épris d'une transe mystico-divine, je braille dans un micro la vérité absolue sur la résilience à poil long, la recette du cheval Melba et le djihad lancé sur la mairie contre Jérôme Clarisse et toujours Audrey Barat. Autrement, oui, je suis sérieux. Si, si, je vous jure.
Le reste du temps.
Le reste du temps. Je vous ai eu. Bon, en tout cas, les copains, ce serait vachement cool pour WAM de taffer à la radio et de pouvoir payer les croissants le matin plus souvent, mais... Dans le cas où ma candidature ne serait pas retenue, je garde ma place de vice-président et puis, par la présente, vous laisse mes consignes pour l'embauche d'un CDD d'animation. Alors, mes prérequis sont donc... Vu que la personne, on est d'accord, doit avoir entre 20 et 25 ans pour être éligible à l'emploi à venir, je dirais que nous devrions recruter une femme pour faire preuve de parité, n'est-ce pas, Cacapo?
Exactement.
Au sein de la radio. Et que celle-ci doit avoir la carrure pour pouvoir circuler dans les étroits couloirs de la radio. On reconnaît l'animatrice par ses formes adaptées à ce travail. Partant de cette conclusion, j'ai dressé le portrait robot de l'animatrice type. Alors, ses mensurations doivent être aux alentours de 90 de tour de poitrine, 60 pour la taille et de 75 pour le bassin. J'insiste aussi sur le fait qu'elle doit être célibataire pour pouvoir consacrer son âme au studio. Hein. On est d'accord, les gars. Bref, je pense qu'il est nécessaire à la radio soit d'avoir un tyran aux dents longues, comme un tigre, pour tenir les troupes à carreaux et faire une équipe unie sous une même bannière, Siegreichen. Bon, on va arrêter. Soit une bombe atomique à neutrons hyper propulsés, ça fera pas avancer le secrétariat, mais je peux vous garantir que la technique bossera mieux. Maintenant, je vous serai fort aise d'accepter ce document comme lettre de motivation et de tenir compte de mon expérience radiophonique, des diverses formations que j'ai entreprises au sein de la radio.
Je vois pas ce qui te veut dire que la technique marchera mieux, en fait. On risque de travailler beaucoup moins.
Mais non, tu verras, ça motive les troupes. Ça verra, tu verras. Et donc, tenir compte de mon expérience, de ma volonté inhérente de me former à l'animation sur le terrain avec le fouet dans une main et le nagra dans l'autre, crier à la Wakbar devant le service culturel de la mairie, réclamer la tête de la traître qui nous a lâchés pour le côté obscur. Oh rage, oh désespoir, oh jeunesse ennemie. Ai-je donc si peu vécu que pour cette infamie, mon argent blanchi par tant de fraudes espérées, mes méfaits commis en toute impunité, ma plume qu'avec respect toute la radio admire, ma plume qui a tant de fois sauvé cet empire, tant de fois affermi mon trône à moi, trahis donc ma félonie, ne fait rien de bon en soi. Oh cruel souvenir de ma gloire passée, combattant le dragon se nommant Barat Audrey, toi qui, sans scrupule, changea de camp, oubliant l'histoire et tes serments justifiés. Toi qui, à peine sorti de Radio Saint-Aff, n'en attendis pas plus, et pris pour taf un poste à la mairie, pour qui tu t'es vendu, trahissant ainsi des siècles d'aversion entre pouvoir en place et nos revendications. Ô toi, Chimène, ô teint diaphane, dont la beauté égale celle de Laila dans les poésies persanes, ces splendeurs n'étaient donc là que pour cacher ton âme noire et impie. Toi qui, durant des années, telle une marane de l'hérésie, jouait les agents doubles au compte de sa majesté, le sueur ténébreux, comte de Fauconnier. Comment donc pourrait-on m'accuser, moi qui suis resté fidèle du premier jour au dernier? Comment pourriez-vous dire qu'il y ait conflit d'intérêts à ce que je devienne salarié, et ce, par la main de Dieu? Qui pourrait s'y opposer? Car de droit divin je suis! Car de droit divin je suis, moi archevêque et recteur du rectum sacerdotal, deviendrai chevalier croisé et triompherai du mal pour venger avec les armes cette injure. Car toi, oui toi, délégué à la culture, ce haut rang n'admet point de femme sans honneur, parjure des ondes pour un simple gouverneur. Mon jaloux orgueil s'abaisse devant tant de malfaisance, qu'en 5 ans je n'ai pu faire allégeance, car il m'est interdit, sous peine d'apostasie, de faire l'apologie d'un démon aussi cruel. Mon micro, jadis tant à craindre, et qui dans cette offense m'a servi de parade et non pas de défense, va et quitte le dernier des humains pour passer entre de meilleures mains.
Merci beaucoup, Shams. Je savais pas que tu en avais autant après Audrey, tiens.
Si, toujours. Bah, depuis qu'il n'est plus là, je ne sais plus qui embêter, en fait. Je m'ennuie.
Voilà. Bon bah voilà, à espérer que notre cher conseil d'administration écoute le cul de l'église pour profiter de ta raquette.
Ouais, il y en a un qui est pas loin.
Bah, où sont-ils, ça, je ne vois rien.
Il y en a plusieurs,
non,
même.
Non, pitié, pas derrière moi. Voilà, et ben... Wow, c'est pas fini ce bordel, oui. Merci beaucoup à tous pour votre participation.
Ouais.
Merci, chers auditeurs, de nous avoir accordé votre attention. C'était Jean à la technique. On le remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures. D'ici là, restez sur Radio Saint-Aff. Tout de suite, la musique n'est pas une religion avec Fred. Ouais.